Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet encore trop peu évoqué, les troubles du comportement alimentaire. Touchant près de 600 000 personnes en France, ils représentent la deuxième cause de mortalité prématurée chez les 15-24 ans, juste après les accidents de la route. Problèmes qui paraissaient déjà anormalement fréquents chez les jeunes, ils ont vu leur cas croître face aux confinements successifs. Mais face à tous ces chiffres, revenons un peu sur le concept même de ces troubles alimentaires. Quels sont-ils? Comment se manifestent-ils? Quelles en sont les causes? Pour en parler, nous accueillons le professeur Daniel Rigaud, spécialiste reconnu dans le traitement des troubles du comportement alimentaire, mais aussi président de l'association Autrement, dédiée au TCA.
Les troubles du comportement alimentaire, comme le nom l'indique, sont un trouble, c'est-à-dire quelque chose d'opaque et quelque chose aussi qui a rapport avec le mal-être de la personne. Le deuxième mot, c'est comportement, c'est un trouble du comportement. C'est-à-dire ce qui est impliqué, c'est une action qu'on fait, qu'on mange ou qu'on ne mange pas, une action qu'on fait en rapport avec une émotion ou une pensée sous-jacente. Par exemple, je suis trop gros, c'est épouvantable, quelle horreur mes cuisses, il faut que je maigrisse. Donc demain, je me mets au régime. Je vais sauter le petit déjeuner, je ne prendrai plus de pain ni de matière grasse. Voilà comment seront mes journées. Et donc le troisième mot, c'est alimentaire, mais même si un trouble du comportement alimentaire, c'est alimentaire, ça n'est pas qu'alimentaire parce que au fil des semaines, au fil des mois, vont s'y associer un certain nombre d'autres troubles du comportement, parfois obsessionnels, voire même obsessionnels et compulsifs. Ça peut être aussi de l'anxiété, un état dépressif, un état de stress permanent. Vous voyez, un certain nombre de choses qui vont faire que finalement le TCA, trouble du comportement alimentaire, va envahir la tête de la personne.
Existe-t-il des raisons, des prédispositions ou des causes à ces TCA?
Alors oui, Oriane, il existe des mécanismes physiopathologiques qui expliquent les TCA. Alors, le premier facteur, il est génétique. On a actuellement des profils qui rendent la personne fragile au TCA. Et si cette personne se met au régime ou est mise au régime ou fait régime pour X ou Y raison, risque de déclencher un TCA. Donc, il y a un facteur génétique. Il y a un facteur sociétal, hein. Nous sommes dans une société où la minceur est quand même une espèce de pensée unique, où il y a des peurs autour de l'alimentation qui sont subjectives et pas très cohérentes, mais qui sont là, la peur de grossir, la peur d'être malade du fait de l'alimentation, la peur d'attraper le diabète, d'attraper des maladies cardiovasculaires, voyez, la peur de manger du cheval alors que c'est du bœuf. Donc on n'arrête pas de nous faire peur autour de l'alimentation et ça crée une espèce de rumeur négative, hein, une espèce de toile de fond. La deuxième raison sociétale, je pense que c'est aussi le contrôle, hein. On est dans une société où le contrôle est quelque chose d'important. Or, le contrôle, c'est le maître mot dans les TCA. Si les personnes souffrent de TCA, c'est parce qu'elles sont en excès de contrôle. D'accord. Et puis, le troisième facteur sociétal qui existe, en particulier depuis le début du Covid, c'est l'insécurité. Alors, pas forcément l'insécurité objective, hein, on n'est pas en Palestine, mais l'insécurité subjective, c'est le monde va mal, il y a des crimes partout, on n'est pas en sécurité, je ne sais pas de quoi sera fait demain, je ne sais pas si je ne serai pas au chômage, je ne sais pas si j'aurai la retraite ou si j'aurai pas de retraite du tout, voyez. Et tout ce climat d'insécurité sociale, ce climat de besoin de contrôle, ce climat de peur de l'avenir génère une toile de fond, un contexte qui favorise l'émergence des troubles du comportement alimentaire.
Le 27 avril dernier, Le Monde titrait « La crise sanitaire provoque une hausse inquiétante des troubles alimentaires chez les jeunes adultes ». Il est vrai que ces deux dernières années de pandémie n'ont pas été faciles, entre confinement, masques, isolement et fermeture des lieux publics, tous les domaines de la société ont été affectés par la crise sanitaire, entraînant crise économique et sociétale, mais aussi crise d'angoisse et crise de nerfs. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'influence des confinements et autres couvre-feux sur la santé mentale et alimentaire des jeunes ?
Oui, Oriane, ce qui se passe, c'est que justement, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que le virus mondialisé nous renvoie à quelque chose qui est notre insécurité face à la mondialisation. Le virus en tant que maladie nous renvoie à notre insécurité face justement à cette maladie, ces maladies que nous ne contrôlons pas et qui risquent de venir de notre alimentation. En plus, la Covid serait d'origine animale et donc les gens auraient éventuellement mangé des produits qui les auraient infectés. Donc là aussi, ça connecte alimentation. Alors au-delà du virus et de son imprévisibilité, il y a aussi cette idée de confinement. C'est-à-dire que, je vous rappelle, le maître mot, c'est contrôle. Or, quelqu'un d'autre a pris le contrôle. Et ça n'est pas la personne. Le gouvernement a pris le contrôle de ses sorties. Les parents prennent plus facilement le contrôle parce que on est confiné, on est en contact avec ces personnes. Et dans une certaine mesure, comment vous dire ça, les gens qui sont bien avec leurs parents, finalement, d'être confinés, c'est pas si mal, c'est sympa, on voit ses parents plus qu'avant. Mais quand il y avait des conflits familiaux, quand il y avait des problèmes d'affection, parfois même une certaine négligence de la part des parents pour leurs filles adolescentes ou leurs garçons, à ce moment-là, le confinement exacerbe ça et surtout, elle le met en lumière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on s'en rendait pas compte, ils travaillaient beaucoup, mes parents, et là, brusquement, on se rend compte que, ouais, ils travaillaient beaucoup, mais en même temps, ils m'aiment pas. La preuve, c'est que depuis que je suis à la maison, depuis qu'ils sont à la maison, rien ne se passe comme dans une vraie famille. Donc tout ça, ça peut exacerber chez des personnes qui sont un peu inquiètes, chez des personnes, des adolescentes, qui ont un peu, on va dire, peu confiance en elles, qui ont peu d'estime d'elles-mêmes, ça peut exacerber le besoin de contrôle, donc elles vont faire un régime et pan, c'est parti si elles ont une fragilité au TCA.
Est-ce que vous, en tant que praticien, vous avez vu augmenter le nombre de vos patients durant les mois de mars-avril 2020 et le confinement de novembre dernier ?
Non seulement on a vu augmenter le nombre de patients, mais surtout on a vu augmenter, on va dire, la gravité de l'anorexie et de la boulimie, c'est-à-dire surtout les TCA hyperphagiques. Anorexie mentale, pas tellement, ça s'est pas tellement aggravé, mais alors la compulsion, la boulimie, parce que effectivement, le lien à ce moment-là, il est direct entre l'émotion négative, le sentiment d'insécurité et le geste qui consiste à ouvrir le réfrigérateur et à faire une crise.
Professeur Rigo, vous êtes un spécialiste internationalement reconnu. Pensez-vous que l'État français en fasse assez pour gérer cet effet secondaire de la crise du Covid-19 ?
Je ne suis pas un politique et je n'ai pas prétention à répondre à ce type de questions. Ce que je dirais, c'est que on va avoir un vrai problème de société, si tant est qu'on ne l'est pas déjà. Et ce problème de société implique nos jeunes. Alors clairement, j'ai le sentiment à travers tout ce que je lis que les jeunes se sentent un tout petit peu laissés pour compte. Leur avenir, ils savent pas forcément ce que c'est. Leur retraite, ils ont pas la moindre idée. Le monde du travail devient parfois un peu compliqué. Donc tout ça ne les rassure pas. On observe aussi chez un certain nombre des étudiants et des jeunes travailleurs une certaine forme de pauvreté, on peut le dire. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. J'avais un étudiant au bout du fil, là, Valentin, hier, et il raconte qu'il a perdu ses petits boulots, qu'il ne sait pas comment il va boucler les mois qui suivent. Voyez, et c'est vrai que je pense qu'on n'a pas pris conscience de ça. Et puis, malheureusement, on a, côté psychiatrique, on a un peu désossé le système de soins que nous avions, que, on va dire, nos structures psychiatriques, et j'inclus même les psychiatres qui exercent en libéral, les psychologues qui exercent en libéral, actuellement, ne sont pas en assez grand nombre. Et malheureusement, ça aide pas les gens fragiles à aller mieux parce qu'ils ont un peu de mal à trouver. Voilà, j'avais un père désespéré au téléphone, sa fille souffre d'anorexie mentale, il est en Corse, il me dit « Monsieur Rigaud, je ne trouve aucun spécialiste des troubles du comportement alimentaire, aucun psychologue, aucun psychiatre qui connaisse ça en Corse. Ah, » Corse, c'est pas Madagascar quand même. Donc je pense qu'il faudrait, y penser vraiment et essayer de faire quelque chose vraiment au niveau du gouvernement de telle manière à éviter une vraie crise sociétale dans les mois ou années qui viennent.
Auriez-vous des suggestions pour améliorer cette prise en charge des TCA en cette période mais aussi et surtout en général ?
Déjà, il faudrait former les professionnels de santé à la prise en charge moderne des troubles du comportement alimentaire. Et l'association Autrement, que je préside, a mis en place un e-learning pour enseigner les professionnels de santé, diététiciens, psychologues, médecins, à cette prise en charge complexe des troubles du comportement alimentaire. Il faudrait aussi ouvrir, au moins dans les quelques 10 grandes villes importantes, des structures de soins hospitalières, j'entends, hein, enfin clinique ou hôpital, hein, où on puisse accueillir les malades en perdition, soit parce qu'ils ont une anorexie mentale assez sévère et qu'ils ont perdu du poids. Hein, la fille en question, elle a perdu 23 kilos en 5 mois et demi. Donc le père s'affole et on lui dit que c'est pas grave parce que l'indice de masse corporelle n'est qu'à 16 et que tout va bien. Sauf que 23 kilos, ça veut dire qu'elle ne mange rien du tout. Et donc ça la menace, voyez. Donc il faudrait qu'il y ait des structures de soins et puis que ces structures de soins qui accueillent ces malades TCA soient un peu spécifiques et qu'elles comprennent à la fois un médecin nutritionniste, un médecin psychiatre, vous voyez, qui est une intervention thérapeutique à la fois du côté nutrition et du côté psychocomportemental.
Près de 28% des adolescentes sont concernées par la crise de boulimie en France. L'anorexie touche 30 000 à 40 000 personnes et la boulimie concerne près de 220 000 Français. Comment expliquer l'augmentation conséquente de ces troubles dans la population ? Même si le professeur Rigaud a déjà évoqué le sujet, revenons sur les causes de ces troubles du comportement alimentaire. Modèle photo aux courbes incroyables, mannequin en poids hors normes, l'apologie de la beauté et d'une certaine forme de beauté est partout. Ventre plat, jambes fines, rentrer dans du 34, 36 maximum, être mince mais pas trop, avoir des formes mais pas trop. Les critères du 21e siècle sont insupportablement trop précis. Et impossible de les éviter. Réseaux sociaux, publicités, défilés, films, séries, les femmes au corps parfait sont partout. Pas étonnant que lorsque votre aspect extérieur est plus pris en compte que votre intellect, vous passiez des nuits blanches à compter vos calories. Cependant, si l'anorexie mentale touche environ 1,2% des femmes, elle touche aussi 0,25% des hommes, il ne faut pas l'oublier. Les hommes au corps sculpté et au visage taillé au couteau des publicités, les sportifs, les instagrammeurs et autres tiktokers clichés jouent aussi leur influence sur le mental de la gente masculine. Vous l'aurez compris, c'est cette apologie constante d'une perfection inatteignable qui empiète tant sur la santé mentale. Face à cette pression constante que l'on s'impose à nous-mêmes pour rentrer dans les normes, ajoutons celle de la société, des réseaux sociaux entre harceleurs et cyberharceleurs, du regard des autres et de la famille même parfois. Pour finir, saupoudrez le tout de désinformation et de mésinformation face à ces maladies et vous obtenez le milieu propice à tous les troubles alimentaires inimaginables. Répétons-le encore, oui, les troubles du comportement alimentaire sont des pathologies. Non, la boulimie n'est pas un manque de rigueur alimentaire et non, l'anorexie n'est pas une chance. Pour répondre à quelques phrases entendues lors de soirées dont le niveau ne volait de toute évidence pas très haut. En parler, mieux représenter cette maladie, c'est aussi une façon d'aider à la combattre. Si elle semble parfois ne pas être prise au sérieux dans les médias ou même en général, de nombreux films et séries adolescentes ont su l'évoquer et en parler.
Who's telling me to eat?
Who wants you to eat? You got permission. Love you, Cass.
I love you too, Alan.
So, eat.
C'était un extrait de la série britannique Skins, parue entre 2007 et 2013. Série adolescente dramatique, elle met en scène un groupe d'amis lycéens et évoque de nombreux sujets controversés liés à l'adolescence, comme l'homosexualité, la toxicomanie, le harcèlement, mais aussi l'anorexie, à travers le personnage de Cassie Hemsworth, dont on a entendu la voix tout à l'heure. Une série plus récente et moderne, mais qui reprend le concept de teen drama, Scam France, inspiré d'un concept original norvégien, scam qui signifie honte en norvégien, met en avant les problèmes adolescents. La saison 6 française, qui s'émancipe un peu du concept norvégien, se centre autour de deux sœurs, dont l'une souffre de boulimie. Dans un autre ordre d'idées, la série The Crown, sur Netflix, avait suscité une polémique en montrant la princesse Diana souffrant de crises de boulimie et d'hyperphagie face à l'exigence des critères de beauté de la part de la famille royale. Enfin, de nombreux films centrés essentiellement sur le problème des TCA ont été réalisés. Je vous conseille To The Bone, qui met en scène Lily Collins jouant une jeune femme luttant contre l'anorexie. Les problèmes de troubles du comportement alimentaire sont aussi évoqués dans la musique, comme le chante le groupe américain Beach Bunny dans sa chanson Prop Queen, que l'on écoute tout de suite. À travers cette chanson, nous suivons donc le témoignage d'une jeune fille qui, dans sa volonté d'être parfaite, se met à compter ses calories et à lister ses défauts. Cette histoire est aussi celle de nombreux jeunes qui, à force de comparaisons idéalisées, se sentent mal dans leur peau. Néanmoins, chaque parcours est différent et deux étudiants ont bien voulu nous partager le leur.
Moi, je m'appelle Louise, j'ai 18 ans, je suis lycéenne et je pars en études sup l'année prochaine.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 18 ans, je suis un garçon transgenre.
Donc vous avez tous les deux souffert ou souffrez encore de troubles du comportement alimentaire. Pouvez-vous nous en parler, nous les décrire ?
C'était de l'hyperphagie et de la boulimie. Je mangeais beaucoup et après j'arrêtais de manger pendant plusieurs jours. Je pouvais faire des espèces de grèves de la faim. J'arrêtais de manger pendant des jours entiers. Et j'avais jamais réussi à passer le stade de me faire vomir. Du coup, en fait, je procédais à des lavements. C'était un petit peu honteux à l'époque. J'en parlais à personne, en fait. Et mes TCA ont commencé à disparaître en arrivant en seconde au lycée. Mais j'ai continué à souffrir de dysmorphophobie encore jusque cette année, l'année dernière. C'est des TCA qui restent. En fait, il y a toujours une petite trace qui est restée au fil du temps.
Je souffre de plusieurs types de TCA par intermittence. Donc, je fais de l'anorexie, je fais de la boulimie et je fais de l'hyperphagie. Donc il y a des périodes où je peux ne pas manger pendant un certain temps ou parfois je peux faire de la boulimie vomitive, vomir volontairement. En voulant reprendre du poids parce qu'on croit avoir gagné contre l'anorexie, finalement en fait on repart dans une période de boulimie.
À quel âge ces problèmes se sont-ils manifestés ?
Alors moi j'ai commencé à avoir des TCA pendant le collège vers la quatrième.
Ces problèmes-là ils se sont manifestés assez jeunes. J'ai pas réellement de souvenirs en fait dans ma vie où j'avais un rapport stable et sain avec la nourriture. Ça s'est accentué vers mes 6-7 ans. Une phase qui correspond dans ma vie à des problèmes de santé et puis à des problèmes de harcèlement scolaire. Donc ça a commencé par là.
Et avez-vous réussi à les gérer depuis ? Et si oui, comment ?
Alors moi, comme je le disais, j'ai réussi à en parler à personne. Et c'est mon père et ma sœur jumelle qui le remarquaient parce que mon corps changeait. J'étais devenue vraiment maigre. J'avais perdu jusqu'à 10 kilos. Et j'étais déjà un poids normal à l'époque, donc en fait, c'était beaucoup eu. Mais ma mère, elle, n'a pas voulu admettre que j'avais des TCA. Du coup, j'ai vraiment mis ça sous le tapis. Et je l'ai géré principalement toute seule. Et dans la foulée, je suis allée à la maison de l'ado quand j'étais infirmière et psychologue pour tant de problèmes à l'époque. Mais on ne l'a jamais vraiment pris en charge parce que c'était ultra tabou d'en parler, quoi. On faisait comme si tout allait bien.
Toute la question, pour moi, tout l'enjeu, ça a été de réussir à cohabiter avec ces troubles. Les choses qui ont fait que j'ai réussi à le gérer, ça a été de prendre mon indépendance, le fait de mettre en place un planning, c'est-à-dire que voilà, l'une semaine sur l'autre, je me fixe un repas complet par jour à manger qui me fait envie. C'est moi qui les confectionne. Au jour d'aujourd'hui, je sais que je suis à peu près stable. Je peux pas dire que je suis guérie, je suis à peu près stable. Parce que je suis entourée de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et que on s'aide et c'est la solidarité qui est très importante.
Savez-vous ce qui a pu déclencher ces troubles du comportement alimentaire ?
Alors, je sais exactement ce qui a déclenché ces troubles-là. C'est vraiment c'est la rentrée au collège. Et en fait, j'ai eu ma puberté très tôt. J'ai eu ma puberté en, j'ai commencé à rentrer dans la puberté en CM1. Donc, en arrivant en sixième, j'étais déjà vraiment formée par rapport à mes copines. Donc, les garçons à l'époque, c'était toujours t'es grosse. Mes copines, c'était des planches à pain. Et en fait, moi, mon rêve, c'était de leur ressembler. Et j'avais un petit copain à l'époque qui m'encourageait là-dedans. À chaque fois que je perdais un kimono, je devais lui dire. Il m'encourageait en disant, allez, encore en plus, et tu seras bien encore en plus. Et comme je disais, jusque perdre 10 kilos. Et quand je me suis séparée de ce petit copain, c'est là que j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel.
Je n'avais pas d'estime de moi. Je ne me sentais pas bien en moi-même. On peut le relier aujourd'hui à ma transidentité, mais je pense qu'on peut aussi surtout le relier au harcèlement scolaire qui était très fort. Et je pense que c'est avant tout la haine des autres qui a fait que j'ai remis en question ma propre existence, j'ai remis en question mon propre amour. Et c'est vrai que dans un climat qui était instable, ma blessure m'a été fatale du fait du jour au lendemain, alors que le judo était toute ma vie et tout mon espoir. Être immobilisée sans pouvoir faire de sport, ça a été très radical. Et c'est quelque chose auquel je n'étais pas préparée de prendre du poids en aussi peu de temps du fait des traitements, du fait de l'immobilisation. Et c'est quelque chose dans lequel on n'a pas été accompagné non plus.
Les confinements et couvre-feu des deux dernières années ont-ils eu un effet positif ou alors négatif sur votre santé alimentaire?
Alors pour tout, le premier confinement a vraiment fait réapparaître mes problèmes de dysmorphophobie. Parce que pendant le premier confinement, je me laissais beaucoup aller, je faisais plus attention vraiment à ce que je mangeais. Parce que comme j'avais pas m'habiller tous les jours pour aller au lycée, j'étais tout le temps en pyjama, je me laissais aller. Mais j'étais heureuse, c'était une des premières fois, la première fois de ma vie, où je faisais pas attention aux quantités que je mangeais, tout ça. Et quand l'été est arrivé, j'ai eu beaucoup de mal à me regarder dans le miroir, en maillot de bain. En fait, j'ai recommencé à avoir des crises de larmes, des crises d'angoisse en voyant mon corps.
C'est vrai que ça a été très compliqué à gérer avec le confinement et le couvre-feu, enfin toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Ça a été bénéfique, le premier confinement de mars 2020, me concernant à propos des troubles du comportement alimentaire, parce que ça m'a permis en fait de pouvoir avoir un rythme de vie dont je décidais par moi-même, totalement par moi-même. J'étais totalement autonome là-dessus. Voilà, j'avais enfin le temps de penser à moi, reprendre le sport d'une manière assez sereine.
Sauriez-vous expliquer pourquoi les confinements ont tant influé sur la santé mentale et alimentaire des jeunes?
Comme je disais, c'est vraiment de plus faire attention à mon corps parce que je n'étais pas confrontée au regard des autres quotidiens. Mais j'étais confrontée aussi aux réseaux sociaux. Du coup, plus l'été arrivait, plus je stressais. Et c'est vraiment au moment de la fin du confinement, quand il était question de revoir du monde. Là, j'ai eu beaucoup de mal à accepter mon corps et que je mangeais n'importe comment. Enfin, je mangeais soit pas du tout, j'ai commencé vraiment à avoir des soucis à ce niveau-là.
Le vice, en fait, derrière tout ça, ça a été la crise sanitaire en général et les confinements notamment. Ont accentué la stigmatisation des troubles du comportement alimentaire. Ils ont augmenté la grossophobie d'une manière énorme dans la société. En fait, il y avait tellement cette idée selon laquelle on ne devait pas ressortir du confinement avec 10 kilos de plus, comme quoi on avait tellement rien à faire de nos vies pendant le confinement qu'on devait tous se mettre au sport pour préparer notre summer body. Il y avait tellement cette idée-là. C'était d'une force énorme, en fait. On voyait ça partout sur les réseaux sociaux, on voyait ça partout à la télé, on entendait ça partout. Enfin, ça n'a fait que renforcer la grossophobie selon laquelle, en fait, les personnes grosses, c'est juste des personnes qui n'ont pas de volonté, etc. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans une situation où je me disais, mais mon Dieu, ils vont avoir raison, en fait. Je vais prendre du poids et je vais ressortir, ça va pas aller, etc. Et donc du coup, voilà.
Avez-vous déjà été auscultée en urgence à cause de ces troubles?
Non, jamais.
Moi, personnellement, j'ai déjà été auscultée pour ces troubles-là. Notamment, suite à des malaises de malnutrition. Mais c'est vrai que, aujourd'hui, les soins en France ne sont pas accessibles à toutes et à tous. Donc je ne peux pas, j'ai pas pu me permettre d'avoir un suivi sur la durée. Et puis finalement, j'ai appris à avoir mes propres clés.
Pensez-vous que l'État en fasse assez pour gérer ces troubles du comportement alimentaire?
En général, même hors confinement, je pense pas que l'État en fasse assez. on voit que tout le monde continue d'en souffrir, c'est pas pris en charge. Et comme je disais, moi, dans mon histoire, ça a été très tabou, en fait. Même, on reste dans des stéréotypes et dans des modèles de société qu'on veut.
On a encore bien trop de préjugés en France sur les troubles du comportement alimentaire pour que notre situation soit prise en compte sérieusement et qu'on donne de vraies solutions pour la durée. Ça ne date pas que de la crise sanitaire qui a un manquement au soutien des personnes ayant des troubles du comportement alimentaire.
Auriez-vous des suggestions ou de nouvelles façons de changer la société ?
Non, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Rien que commencer par retirer le tabou et prendre la responsabilité de comment est-ce que ça s'est mis en place, comment on se retrouve avec des jeunes qui font tellement attention à leur corps que ça les rend malades, quoi. Je pense qu'il y a vraiment tout à reprendre de la base.
Si, comme le soulignent Loïs et Louise, les troubles du comportement alimentaire sont encore trop peu pris au sérieux, les choses s'améliorent. Face à plus d'un demi-million de jeunes atteints de TCA en France, la loi a pris quelques dispositions, en faisant passer en 2015 une loi visant à lutter contre la maigreur excessive. Ainsi, la mention photo retouchée est maintenant obligatoire le cas échéant, et les mannequins doivent présenter un certificat médical assurant leur bonne santé. Par ailleurs, d'autres aides sont mises en place par l'État. Les tickets psy d'accompagnement et certaines assurances maladie proposent des suivis psychologiques gratuits pour les étudiants, sur présentation de certificat médical. Il existe aussi de nombreuses associations, non étatiques et nationales, et des sites web et des blogs. On peut bien sûr citer l'association Autrement, dont nous accueillions le président tout à l'heure. L'association propose des e-learning pour mieux comprendre les TCA et des groupes de parole pour les anorexiques et les boulimiques, disponibles sur internet à l'adresse www.anorexie-et-boulimie.fr. Il existe aussi la FNATCA, la Fédération Nationale d'Associations liées aux troubles du comportement alimentaire, joignable par mail à fnatca@gmail.com. Enfin, vous pouvez toujours contacter la FFAB, la Fédération Française de l'Anorexie et de la Boulimie. De plus, une ligne téléphonique anonyme a été mise en place, Anorexie Boulimie Info Écoute, au 0810 037 037, au prix d'un appel local. Et une ligne réservée aux jeunes existe enfin, Fil Santé Jeunes, au 0800 235 236. Pour compléter ces aides très professionnelles, de courtes vidéos sur l'application TikTok ont débuté durant les confinements. Des jeunes qui se filmaient en train de manger pour donner envie à leurs abonnés de manger aussi. Cette initiative peut aussi servir d'aide, je vous la conseille. Ces quelques contacts ne sont que des exemples parmi d'autres. Les aides sont de plus en plus nombreuses. Si vous souffrez de TCA, il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Que ce soit à un médecin, à un proche, ou bien anonymement, sur une de ces lignes téléphoniques.